Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans une dizaine de minutes, et comme chaque premier tumulte de chaque mois, Xavier nous présentera sa chronique lunatique. Puis, dans 30 minutes, le journal de Tumulte, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1015. Jean au micro, salut! Nouveauté avec Rachita. Bonjour en duo de avec Gaëtan Roussel.
Hello Kitty, bonjour violente femme. Bonjour Grace Kelly, bonjour madame. Hello Superman, bonjour solitaire. Bonjour tous les jours, tout à l'envers.
Du festival d'Arras, l'autre cinéma sur les écrans de la ville du 6 au 15 novembre avec le soutien de PFM. Avec des invités d'honneur pour ce 10e anniversaire, Patrick Chéreau et Pavel Lunguine.
Une compétition de films européens, des avant-premières en présence d'invités.
Des découvertes européennes avec un focus sur le cinéma roumain et anglais.
Les cinémas du monde, le festival des enfants.
Des rétrospectives, le film musical des années 70 et autour du mur de Berlin.
Des ciné-concerts, des expositions, des tables rondes et des afters.
Pour plus de renseignements sur le Festival international du film d'Arras, appelez le 03 21 07 05 40 ou rendez-vous sur le www.plan-séquence.asso.fr.
Gong, le retour. L'album s'appelle Gong 2032.
To the city of self-fascination.
Gong, extrait de leur nouvel album 2032. Vous êtes à l'écoute de Radio PFM sur le 99.9, magazine Tumulte. Et dans un instant, la chronique lunatique présentée par Xavier. La chronique lunatique de Xavier.
Permettez-moi que je vous raconte un peu ma vie, monsieur Tumultini. Le jeudi 15 octobre, je me suis rendu avec ma copine à une conférence débat plutôt rafraîchissante. Cette soirée était co-organisée par l'association Attaque et l'association Eau Secours 62, qui rappelle que l'eau, patrimoine de l'humanité, est de la responsabilité des collectivités locales depuis la Révolution française, et qu'elle doit rester un droit et ne peut être gérée selon les règles du marché. L'invité de la soirée était Jean-Luc Touly. Ce monsieur était pendant plus de 15 ans salarié de la Compagnie Générale des Eaux, devenue Vivendi puis Veolia. Après avoir été mis au placard pour excès de curiosité, Touly a continué d'enquêter sur la gestion de l'eau par les deux principales multinationales de ce secteur qui, réjouissons-nous, sont françaises. Il s'agit, pour ne pas les citer, des groupes Veolia et Suez. C'était chouette cette conférence. Jean-Luc Touly nous a expliqué comment le coût de la gestion de l'eau est de 25 à 40% supérieur quand elle est assurée par des régies privées. Il a insisté sur l'opacité de ces opérateurs privés qui ne se fatiguent même pas à répondre aux questions que certains élus soucieux de démocratie osent leur poser. Il nous a parlé de l'entretien des réseaux, largement négligé par des boîtes au nom qui fait pourtant si propre. Il nous a fait rire jaune en faisant allusion au pragmatisme très intéressé d'élus de tous bords politiques qui s'occupent davantage d'encaisser d'énormes chèques de compagnies privées que de savoir que leurs administrés devront rembourser ces sommes plusieurs fois. Enfin, il a montré exemple à l'appui qu'avec un peu de courage politique, le passage à la régie publique avait de multiples avantages économiques, écologiques et bien sûr démocratiques. Alors vous me direz, monsieur Tumultini, on était bien avancé de savoir tout ça. L'étendue des arnaques, des connivences et de la corruption aurait plutôt tendance à assommer les honnêtes citoyens que nous sommes, et à leur faire penser qu'une fois de plus, ils n'y peuvent pas grand-chose. Eh bien détrompez-vous. Sur les 70 personnes présentes ce soir-là, se trouvaient des défenseurs de Veolia, qui a obtenu le contrat de gestion de l'eau dans notre bonne ville d'Arras, comme dans 8000 autres collectivités en France. Avec ma copine, on se disait bien que dans le public, il n'y avait pas que des têtes d'altermondialistes. Mais comme on a conscience de parfois juger les gens un peu vite, on s'est dit que des idées de justice et de solidarité faisaient leur chemin. On n'a pas été déçus. Ça a commencé par un monsieur jeune et dynamique qui a accusé le conférencier de mensonge et qui, mettant à profit les acquis de son stage communication par l'intimidation chez Veolia, s'est levé et s'est dirigé jusqu'à la table des animateurs du débat en surjouant l'indignation. Ça a continué par l'intervention d'un syndicaliste CGT Veolia, sans doute informé de la conférence par son patron. Ce monsieur de gauche, c'est lui qui l'a dit, a tenté de nous expliquer que son syndicat était pour un service public national de l'eau. Mais qu'en attendant, rien ne prouvait qu'une entreprise publique faisait mieux son boulot qu'une entreprise privée. Et puis que si on écoutait les écologistes, tout le monde allait se retrouver au chômage. Alors évidemment, il s'est vu répondre, ce monsieur, que des emplois publics, c'était aussi des emplois. Et que son savoir-faire et celui de tous ses collègues seraient sans doute plus utiles à la communauté qu'aux actionnaires de sa boîte. Pendant ce temps, une dame un peu stressée distribuait des jolis prospectus aux couleurs de Veolia. Ces tracts tentaient d'expliquer aux Arrajois, clients captifs de la multinationale, les raisons pour lesquelles le prix de leur eau est l'un des plus élevés de France. Et puis enfin, on a eu l'honneur de profiter d'une intervention du directeur régional de Veolia himself. Respect. Sauf que l'Assemblée a vite compris que si ce monsieur est un bon ingénieur, ce qui est tout à fait possible, il est un peu nul en communication. Franchement, parler pour ne rien dire en se disant qu'au moins, pendant ce temps-là, les autres se taisent, c'est un peu gros. Je vous jure, monsieur Tumultini, on n'a rien contre le privé. Mais le problème des multinationales, c'est que leur but, c'est pas le bien commun, c'est de faire du fric. C'est aussi simple que ça. Alors évidemment, ils le font en mettant beaucoup de communication autour. Mais quand même, ça passe pas, parce que ça pose un sacré problème démocratique. Les gens, ils sont têtus. Ils ont du mal à admettre que des secteurs tels que celui de l'eau, de la santé, de l'éducation, de l'énergie ou de la poste soient privatisés. Parce qu'ils savent que les meilleurs services que rendent les grandes entreprises privées, c'est pas à eux qu'ils les rendent, mais bien aux actionnaires et à tous ceux qui leur permettent d'exister. Alors évidemment, souvent, on se dit qu'on ne peut rien y changer. Pourtant, quand des cadres supérieurs de chez Veolia viennent assister au débat d'Attaque et d'Au Secours 62, association à laquelle il faut adhérer d'urgence, je me dis qu'il est encore possible de savourer des petites victoires et de changer les choses. Je suis vraiment désolé pour eux, parce qu'ils sont sans doute convaincus d'être des gens bien. Mais après cette conférence, je suis sûr qu'avec ma copine, on a passé une bien meilleure nuit qu'eux.
On n'est pas encore revenu du pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. Saluer les petits rois de pacotille. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille. Sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines. Infiniment se voir rouler dans la farine. À l'envers. Un autre cycle. On peut caresser des idéaux sans s'éloigner d'en bas. On peut toujours rêver de s'en aller, mais sans bouger de là. Il paraît que la blanche colombe a 300 tonnes de plomb dans l'aile. Il paraît qu'il faut s'habituer à des printemps sans hirondelles. La belle au bois dormant a rompu les négociations. Latéralement, le prince entame des protestations. Doit-on se courber encore et toujours pour une ligne droite? Prière pour trouver les grands espaces entre les parois d'une boîte. Serait-ce un estuaire ou le bout du chemin au loin qu'on entrevoit? Spéciale dédicace à la flaque où on nage, où on se noie. Autour des amandiers fleurissent les mondes en sourdine. Nos pas s'arrêtent sous les fourches codines. À l'envers, à l'endroit, à l'envers. We'll be right back.
C'était la chronique lunatique de Xavier, chaque premier tumulte de chaque mois. La chanteuse norvégienne originaire de Laponie, Marie Boine, extrait de l'album Sterna Paradisea.
Ega joo han luota edan. Länguärjo minnaut sämi mojon jälmi mun. Unna mies svel niha dihi jo ihtä tja. Länguärjo minnaut sämi mojon jälmi mun. Unna mies svel niha dihi jo ihtä tja.
Funando, Nancy Mani Zula, Izula, 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 Lentak.
Thank you.
Il était une fois dans l'Ouest, musique d'Ennio Morricone, interprétée ici par Pascal Comelade. On va écouter maintenant Mamani Keita, Yelema, et juste après, ce sera le journal de tumulte, invité Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1.
Yelema yelema so mo ya kara yelema yelema so e Yelema yelema so mo ya kara yelema yelema so e Yelema yelema so mo ya kara yelema yelema so e Yelema yelema so e Yelema yelema so mo kara yelema yelema so e
journal de tumulte avec Guy qui devrait arriver dans quelques instants, il doit être dans les embouteillages. Nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Avec lui, nous allons parler de la question de la taxe professionnelle et plus généralement des impôts. Qu'en faire dans un contexte de crise ? Nous parlerons aussi de la publication annuelle du classement de Shanghai. Seulement 3 universités françaises dans le top 100. Qu'en penser ? Et puis aussi, parlons du service public et de la question de la poste. Voilà, Guy est arrivé, il était pris dans les embouteillages du côté de Bastille, Guy, comme on dit dans les radios parisiennes.
Des embouteillages grippés, genre, ou grippos, je sais pas. Ah.
Bon alors Guy, l'ordre du jour, le sommaire de cette interview de Laurent, la taxe professionnelle, les impôts en général, le classement des universités, le classement de Shanghai, et la question de la poste.
Et tu lui as pas refilé le grand emprunt ?
Ouais, mais ça, on peut toujours lui glisser, ça, faut pas, faut pas tout lui...
Parce que 100 milliards d'euros, c'est quand même pas rien.
On verra. Bonsoir.
Bon, salut Laurent. Alors, la question de la taxe professionnelle, tu nous en dis quelques mots. D'abord, l'explication sur ce qu'est actuellement cet impôt. C'est un impôt qui est considéré comme un impôt local.
Alors, c'est un impôt qui, effectivement, alimente la fiscalité locale, des collectivités territoriales, et essentiellement, d'ailleurs, les communes, et les communautés d'agglomération, les communautés urbaines. Et c'est un impôt qui, à l'heure actuelle, rapporte à peu près, en tous les cas pour la part qui est assise sur l'investissement des entreprises, c'est-à-dire leur actif fixe productif et puis leur actif immobilier, pour la part de cet impôt qui est assis là-dessus, ça rapporte à peu près 4,5 milliards d'euros par an aux collectivités territoriales. Donc c'est pas rien du tout. C'était une base importante de la fiscalité locale. Et la proposition de Nicolas Sarkozy, en tous les cas, il s'y était engagé à plusieurs reprises, c'était de supprimer cet impôt. Alors les raisons pour lesquelles...
Dans son intégralité.
En tous les cas, il y avait une autre part qui pesait sur la masse salariale. Celle-là, elle va être, semble-t-il, conservée. Mais en tous les cas, sur la part de l'impôt qui pèse sur les immobilisations des entreprises, qu'elles soient immobilières ou d'investissement productif, celle-là serait intégralement supprimée. Donc on supprime d'une certaine manière d'un trait de crayon 4,3 milliards de ressources pour les collectivités locales. Alors quasiment la seule rationalité avancée par le gouvernement, c'est que c'est un impôt qui serait dans un monde globalisé assez stupide, puisqu'il dissuaderait les entreprises ayant de forts investissements ou un contenu de la production fortement capitalistique, bah, il dissuaderait ces entreprises de venir s'installer sur le territoire français, puisque c'est une taxe qui porte directement sur l'importance du capital productif ou immobilier des entreprises, qui serait préjudiciable non seulement à l'implantation de ces entreprises, bien sûr, mais à l'emploi en général, dans une compétition mondialisée entre les territoires.
Argument recevable ?
Dans la mondialisation, tous les arguments sont recevables. C'est-à-dire qu'effectivement, puisqu'on a organisé ainsi ou désorganisé ainsi la planète et l'économie mondiale, il est évident que de plus en plus, les territoires sont en concurrence les uns avec les autres pour l'accueil et retenir les entreprises. Elles sont en concurrence pour accueillir des investissements directs venant de l'étranger, mais aussi pour retenir les entreprises sur leur territoire. Donc, d'une certaine façon, l'argument n'est pas irrecevable si on a acté une fois pour toutes que la planète était un vaste champ de concurrence entre les capitaux. La question qui se pose, c'est dans ces circonstances-là, on pourra peut-être le traiter dans un second temps, mais dans ces circonstances-là, ça veut dire qu'il ne faut plus jamais taxer le capital. Bon. Plus jamais taxer le capital parce qu'il est sur roulette et donc si on essaye de l'attraper ici, on va le faire fuir, on va le faire fuir là-bas.
Un mot, Laurent, peut-être avant de détailler justement le pour et le contre, hein, cette taxe professionnelle. Cette taxe professionnelle, c'était aussi un impôt qui pouvait être attribué directement aux établissements scolaires, non ? Je comprends.
Ah non, tu confonds avec la taxe d'apprentissage.
Ah oui.
Tu confonds avec la taxe d'apprentissage où là, les entreprises sont tenues de faire une dotation en pourcentage. Alors, je ne sais plus si c'est de leur valeur ajoutée, de leur chiffre d'affaires ou de leur masse salariale. Une dotation maintenant à des organismes collecteurs de cette taxe d'apprentissage avec la possibilité de flécher effectivement le destinataire. Mmh.
Et ça, c'est... Non,
ce n'est pas impacté, comme on dit, par cette
D'accord,
par cette
c'est réforme. Moi, je pensais que c'était englobé dans la... Dans ce qu'on appelle la taxe professionnelle, non.
C'est vraiment quelque chose...
Et ça, ça reste... C'est...
Oui, ça reste toujours en vigueur. La seule chose qui a changé il y a quelques années, peut-être 3-4 ans, c'est qu'autrefois, les entreprises pouvaient adresser directement cette taxe aux établissements qu'elles voulaient financer. Bon, maintenant, il y a une interface qui collecte autour des chambres de commerce et d'autres organismes qui sont habilités à le faire.
Alors, retour à la taxe professionnelle, donc, hein, puisque c'est bien de celle-là dont on parle.
Oui. Alors, quand même, derrière, la question, c'est par quoi...
Enfin, ceux qui râlent sont
qui pose problème ?
Les collectivités territoriales.
Pourquoi ces collectivités râlent ? Il y a un consensus assez fort sur le fait que ce n'est pas une mauvaise idée de la supprimer. Hein ? On pourra en dire deux mots ensuite, quand on reparlera globalement de la fiscalité. Mais pour le coup, il y a un consensus assez fort sur l'idée qu'il faut, il faut supprimer cette taxe. Avec un argument supplémentaire quand même qu'il faut peut-être souligner, c'est que en même temps, ça crée de la concurrence fiscale entre les territoires. Bon, parce qu'il peut y avoir aussi la tentation de moduler ce type de taxe pour attirer davantage les entreprises chez l'un ou chez l'autre. Bon, alors laissons ça de côté. Par quoi ça va être remplacé ? Ben, ça va être remplacé pour une part par de nouveaux impôts. Qui vont peser quand même sur les entreprises, mais qui vont peser différemment sur elles. Ça va être un impôt sur le foncier. Bon, donc les entreprises vont être imposées non plus sur leur capital immobilier et sur leur capital productif, mais finalement sur les surfaces foncières qu'elles occupent. Bon. Et puis ça va être remplacé par un espèce de supplément à la TVA, qui sera une contribution à la fiscalité locale. Ça, c'est deux impôts qui compensatoires. Puis après, on va chercher les bouts de ficelle les petits bouts de fiscalité supplémentaires qui vont permettre de faire la bascule. Que disent les représentants des collectivités territoriales ? Ce qu'ils disent, c'est que, de fait, on leur supprime des instruments fiscaux et on les remplace par des dotations publiques. Parce que ces nouveaux prélèvements qui vont être faits pour remplacer la taxe professionnelle, c'est des impôts qui vont être nationaux. Donc ils vont être collectés par l'État et ensuite ils vont être restitués suivant des règles de péréquation et de restitution aux collectivités territoriales. Mais ce que disent la plupart des représentants des collectivités territoriales, c'est que de réforme en réforme, on leur a transféré des compétences étatiques et puis on leur a supprimé les instruments d'une fiscalité locale, ce qui fait que de plus en plus ils sont dépendants des systèmes de dotation publique et qui s'effectuent suivant des règles de répartition qui sont votées nationalement. Donc d'une certaine façon, ils dénoncent une décentralisation en trompe-l'œil, où finalement, on leur a imposé des missions de services publics qui autrefois étaient celles de l'État, et puis on leur donne les dotations qui sont essentiellement des dotations centralisées. Bon, c'est comme si la décentralisation finalement n'avait été qu'une déconcentration des ministères. Si on pousse le bouchon un petit peu loin. Donc c'est essentiellement ça que regrettent ces frondeurs.
Bon, ils ont quand même un peu la trouille de ne pas revoir le...
Et bien sûr.
L'équivalent de ce qu'il percevait auparavant. Parce que la péréquation nationale pourrait être un instrument de justice et d'équilibre entre les différentes collectivités, non ?
Oui, bien entendu. Non, mais jusqu'à un certain point, la fiscalité purement locale, c'est un poison dans un territoire national. Parce que ça peut renforcer les inégalités territoriales et les inégalités de développement. Ça introduit de la concurrence fiscale à l'intérieur du pays pour attirer les activités ou éventuellement les hauts revenus. Donc c'est sûr que c'est pas une très bonne idée de laisser s'installer trop de liberté en matière de fiscalité locale. Mais c'est vrai que derrière ce type de réforme, ce que craignent les collectivités, c'est que finalement, au début, l'État va compenser, comme il le fait toujours, un euro pour un euro. Et puis après, une fois qu'on a oublié le point de départ, la compensation, elle se fait au niveau des augmentations que consent l'État à ce type de dotation. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, les collectivités pourraient se retrouver dans le siège du passager par rapport aux décisions nationales. Mais je trouve que la grande question qui est posée derrière, c'est mais alors quand est-ce qu'on taxe les profits ? Quand est-ce qu'on taxe le capital ? Parce que c'est toujours le même argument au niveau de la fiscalité. On est sans cesse invité à réformer notre fiscalité au nom de la concurrence internationale, de la compétition mondiale entre les capitaux. Et donc si on pousse le bouchon jusqu'au bout, ça veut dire qu'il ne faut plus jamais taxer les profits. Donc ça pose plus globalement le problème de savoir comment on fait pour que ce ne soit pas simplement les revenus salariaux qui alimentent les finances publiques. Ça a l'air de t'inspirer, cette question.
Vaste question, quoi. Hein, vaste question.
Alors. Vaste question.
Moi, je voudrais quand même revenir là, sur les collectivités territoriales et le national. Mais les frondeurs, comme tu les appelles, Jean, hein, sont des élus. Ah non, c'est toi, Laurent, qui les appelle les frondeurs. Ouais. J'ai du mal à m'y mettre là ce soir. Donc, les frondeurs, comme tu les appelles, Laurent, sont les élus des collectivités territoriales. Mais en France, quand même, les élus des collectivités territoriales sont aussi élus nationaux. Donc, pourquoi cette inquiétude, quand même, par rapport à un transfert hein, qui ne se ferait pas ? Quand on voit la préparation des élections régionales à venir, il y a un certain nombre de ministres, etc., qui vont être envoyés au charbon pour être tête de liste dans tel et tel département, dans telle et telle région. Donc, ces élus régionaux, hein, en France, avec le cumul des mandats, etc., sont aussi des élus nationaux. Alors, pourquoi une pareille inquiétude ?
Non, mais c'est une bonne question, mais généralement, il me semble qu'il faut dire la chose suivante, c'est que pour un élu qui est à la fois représentant national, un député ou un sénateur, mais qui a aussi un ancrage territorial, l'ancrage le plus solide, c'est quand même l'ancrage territorial. Bon. On pourrait dire que d'une certaine façon, pour vivre de la politique et continuer à en faire, il dépend largement de sa position sur son territoire. Et d'ailleurs, pour les sénateurs, c'est encore plus vrai que pour les députés, puisque les sénateurs sont élus par les délégués et les représentants des collectivités locales. Et puis la deuxième chose, c'est que tout de même, politiquement, la souveraineté est quand même lié pour beaucoup à la capacité à prélever l'impôt et à l'utiliser d'une manière délibérée politiquement. Bon, même si on trouve que la fiscalité locale n'a pas que des avantages, si on fait de ces collectivités locales des organes politiques et qu'on leur ôte toute capacité à prélever l'impôt et à décider de son usage, on n'a plus vraiment affaire à de la politique locale. Bon. Donc on peut comprendre tout de même qu'il y ait un gros abcès de fixation sur cette question parce que les instruments de souveraineté sont déjà pas énormes au niveau local. Il n'y a pas de politique monétaire, la politique budgétaire, on peut tout de même pas faire une relance dans son coin, on ne peut pas faire les règles du marché du travail, on ne peut pas créer les règles de prélèvements sociaux, etc. Bon, donc,
c'est une fronde politique plutôt qu'une fronde économique.
C'est une fronde politique. politique, avec la crainte aussi qu'a souligné Jean, qui est qu'au bout du compte, ils ne maîtrisent plus à long terme du tout leurs recettes et qu'ils soient complètement dans le siège du passager par rapport aux décisions. Aux décisions centrales.
Avant de parler de la taxation du profit, j'en fais peut-être une pause musicale, non ? Parce que là, on a besoin de réfléchir quand même, hein ? La taxation du profit.
Oh, Carolina Gambara !
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Le journal de Tumulte avec Guy, nous recevons Laurent Cordonnier, enseignant et économiste. Alors, après avoir parlé de la taxe professionnelle, nous avons débouché sur la question où taxer le capital. Ce qui rejoint le problème des impôts dans un contexte de crise, il faut bien prélever l'impôt.
Alors ben, ça, c'est pratiquement sûr qu'à un moment, il faudra redécouvrir tout de même les vertus de l'impôt. Sinon, il y a deux scénarios catastrophes qui peuvent remplacer cette alternative. Hein. C'est si pour limiter l'endettement public, on ne veut pas, où les hommes politiques ne souhaitent toujours pas relever le niveau des impôts, et en particulier celui sur le revenu, il n'y aura que deux possibilités d'essayer d'atténuer le poids de la dette ou la charge du paiement des intérêts sur la dette. Enfin, en excluant une troisième qui serait carrément la répudiation de la dette, mais enfin ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour. L'État qui décréterait que non, il ne rembourse pas ses créanciers, que c'est terminé, enfin qu'on efface les ardoises, parce que ce serait une impossibilité de se réendetter quasiment à jamais. Mais donc, si on exclut cette solution-là, il y en a deux autres. Une solution qui consisterait à admettre progressivement que on renouvelle la dette par des créances purement monétaires, c'est-à-dire purement bancaires, financement finalement sur création monétaire de la dette, aux mesures où elle vient à échéance, on la remplace par des prêts sur création monétaire. Ça, c'est une possibilité avec l'idée qu'on tolérerait davantage d'inflation dans l'économie, parce que quand même à terme ça finirait tout de même par avoir un petit impact inflationniste. Là apparemment ça n'a pas l'air de faire encore partie de l'orthodoxie de la sortie de crise, hein.
Ça c'est quoi, c'est s'endetter plus?
C'est pas s'endetter plus, mais c'est pour supporter la montée de l'endettement de toute façon à laquelle on fait face. L'idée serait de faire de moins en moins appel à des créanciers privés, hein, mais de plus en plus appel à des prêts, pourquoi pas de la Banque Centrale Européenne, hein, ou des banques commerciales, mais qui, de toute façon, tôt ou tard, se refinancent auprès de la Banque Centrale Européenne. Ça veut dire financer la dette publique à partir de la création monétaire. C'est tout à fait possible. Enfin, c'est possible, sauf que c'est interdit en Europe, bien entendu, mais économiquement ou institutionnellement, c'est quelque chose qui serait possible, avec l'idée qu'on tolérerait, au bout du compte, un retour de l'inflation. Donc on finirait par éteindre la dette publique, enfin éteindre, ou en tous les cas en diminuer le poids dans le patrimoine, en érodant progressivement ses créances par le retour de l'inflation. Ça c'est une possibilité, mais évidemment, pour l'instant, elle ne fait pas partie de la batterie des outils qui sont en odeur de sainteté chez nos économistes, nos experts, nos gourous, pour une simple raison, c'est que toutes les institutions qu'on a construites sont des institutions qui ont plutôt tendance à défendre la rente et les revenus financiers. Donc pour l'instant, il n'est évidemment pas question d'euthanasier les rentiers. Et l'autre solution qui reste, c'est de faire des coupes vraiment claires dans les budgets et dans les dépenses. Et c'est ce qui finira par arriver, effectivement, si il n'y a pas un sursaut politique plutôt rapide pour redécouvrir, encore une fois, les vertus de l'impôt.
Alors Laurent, tu posais la question, où taxer le capital ?
Oui, parce que se pose tout de même la question de comment faire contribuer les différentes sortes de revenus au financement des missions de l'État. Et de plus en plus, on s'est orienté vers une fiscalité qui épargne les profits et qui taxe de plus en plus le travail. Le travail étant moins mobile que les profits. Alors, il y a quand même une manière d'essayer de taxer les profits qui est relativement habile et qui ne tombe pas, à mon sens, sous le coup de l'idée de la concurrence entre les territoires et l'implantation des entreprises. C'est non pas de taxer les profits nécessairement à leur source, hein, en croyant d'ailleurs que c'est possible, mais de les taxer une fois qu'ils retombent dans la poche des ménages. Et de toute façon, le résultat est le même. Ce qu'on cherche à capter, finalement, ce n'est pas forcément les profits à la source, mais c'est à un endroit où on est sûr qu'on a mis la main dessus. Bon. Et ma conviction, c'est que ce n'est pas forcément à travers l'impôt sur le bénéfice des sociétés qu'on est sûr d'avoir fait payer les profiteurs. Bon. Pourquoi ? Parce que ma conviction, c'est que les entreprises ont un comportement de marge, en général. C'est-à-dire que dans leur politique de prix, elles fixent leurs prix en tenant compte de l'ensemble de leurs coûts et en appliquant une marge sur ces coûts. Ces coûts salariaux, leurs charges d'intérêt, leurs charges d'amortissement des investissements, et y compris, sans doute, pour une large part, leurs impôts. Bon. Autrement dit, ce sur quoi les entreprises ont l'œil fixé, c'est une espèce de taux de marge, mais qui est au bout du compte du bénéfice pur. Bon, et c'est ça qu'elles essayent de dégager à travers leur activité. Donc quand on fait varier le taux d'imposition sur le bénéfice des sociétés, on risque simplement de faire varier les prix des produits fixés par les entreprises. Alors, plus ou moins quand même, parce que quand l'environnement est très concurrentiel, il est possible qu'en augmentant l'impôt sur les sociétés ici, et pas là-bas, et pas à côté, les entreprises nationales ne puissent pas complètement répercuter cette augmentation d'impôt dans leur marge. Hein, si on est les seuls à augmenter, par exemple, le taux de l'ISF chez nous, pas de l'ISF, de l'impôt sur les sociétés, l'IS, et que les autres ne le font pas, les entreprises françaises étant en concurrence avec celles des autres pays, elles pourraient tasser leur marge pour essayer de ne pas perdre en compétitivité.
Ou elles pourraient aller ailleurs, quoi.
Et mais alors là, le problème, effectivement, c'est qu'on retombe sur le coup de la concurrence fiscale entre les pays. Bon. Or, avec ce qu'on a dit là, et donc la grosse réserve, est-ce que c'est bien en allant mettre un impôt sur le bénéfice des sociétés qu'on le capte ? Je pense qu'il faut faire une très grosse réserve là-dessus, on n'en est pas sûr, et peut-être que c'est de la belle âme, hein, cette affaire. Il vaudrait mieux taxer les revenus du capital au moment où ils tombent dans la poche des ménages. Parce qu'au bout du compte, ces revenus financiers, ils finissent par un jeu de cascade, ils finissent par retomber dans la poche des ménages qui sont indirectement ou directement actionnaires des entreprises, indirectement ou directement prêteurs aux entreprises, ou des ménages qui ont des biens immobiliers et qui en tirent des loyers. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut saisir ces revenus par un outil extrêmement simple qui s'appelle l'impôt sur le revenu des personnes physiques, que nous payons tous les ans. Mmh. Et qui pourrait alors soit distinguer les revenus salariaux des revenus de la propriété, pourrait avoir tout à fait deux déclarations, déclaration des revenus salariaux, et puis à côté, déclaration des revenus de la propriété, dividendes, intérêts, loyers. Bon. Et puis appliquer éventuellement une fiscalité différenciée entre ces deux choses-là. Là, on est sûr qu'on tombe bien sur les profits distribués. Puis d'une certaine manière, on n'a pas taxé les profits réinvestis, ce qui n'est pas non plus une mauvaise idée. Hein. On a taxé uniquement les revenus qui n'ont pas servi à l'augmentation du capital productif, donc c'est pas une mauvaise idée, mais on peut faire encore plus simple, hein. On peut simplement augmenter l'impôt des personnes physiques des riches, et là on est sûr de capter ces revenus, puisqu'il y a à peu près que 15 à 20% des ménages qui touchent des revenus de la propriété.
Il a envie de repeupler la Suisse, là, Laurent, non?
Bah écoute, je vois pas comment on peut faire autrement. La situation est devenue absolument incroyable. Quand on regarde aujourd'hui les tranches de l'impôt, du barème de l'impôt sur le revenu, on se dit que les pays européens, mais la France en particulier, est redevenue une espèce de république bananière. Je sais pas si vous le savez, mais la tranche d'impôt la plus élevée, le taux marginal, enfin le taux d'imposition sur la tranche la plus élevée, en France, il a été ramené à 40%. Alors que les tranches marginales, dans les années 70, mais que ce soit en France, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, elles étaient encore entre 80 et 90% les tranches marginales. Bon. Et d'après ce qu'on m'avait dit, ce n'était pas le socialisme dans ces pays-là, ça restait des pays capitalistes, et c'était des pays capitalistes qui n'avaient pas de problème de développement. La croissance économique était de 5% par an, et ça allait plutôt mieux à cette époque-là que ça va aujourd'hui. Là, on a quand même une situation assez incroyable, j'ai fait un petit calcul, mais à partir du barème de l'impôt sur le revenu actuel, pour qu'une famille avec deux enfants commence à être touchée par la dernière tranche, celle à 40%, hein, qu'elle commence à avoir des revenus qui tombent dans cette tranche marginale, il faut qu'elle gagne 17 500 euros par mois. Et c'est seulement au-dessus de 17 500... Parce que là, avec deux enfants, ils ont deux parts et demie. Donc c'est seulement au-dessus de 17 500 euros par mois que vous commencez à tomber dans la tranche à 40%. Mais qui paye des impôts dans ce pays ? C'est quand même... La situation est assez incroyable. Bon. Or, on pourrait tout à fait admettre que quelque chose de raisonnable serait que un couple avec deux salaires qui gagne 8 fois le SMIC, donc je divise à peu près par deux là, mais qui gagne 8 fois le SMIC, se retrouve dans la tranche de 60, 70% ou 80%. Au-dessus, on n'a besoin de rien.
Au-dessus de combien de SMIC alors là
J'essaie de trouver un seuil en dessous duquel je passe, bien, pour que
voilà, c'est ce que j'ai,
taxer des gens plus riches que moi.
3-4 SMIC. Quoi,
les économistes font toujours la même chose. Ils essaient de faire payer les autres. Mais enfin, là, je dis donc quelque chose de fondamentalement raisonnable. En disant quelque chose comme ça, on commencerait à faire payer sérieusement l'impôt sur les 15% ou les 10% de la population les plus aisés. Et il n'y aurait absolument rien de scandaleux cette affaire. Et ça réglerait beaucoup de problèmes.
En tout cas, fin du bouclier fiscal dans ton affaire, là, Laurent.
Ah bah oui, là, si on a des tranches d'imposition à 80%, bah oui, il faut faire un petit amendement à cette loi.
C'est pas 80% après déduction de telle chose.
Ah ben non. Ah, oui, il faut aussi sans doute nettoyer et curer l'ensemble des niches fiscales, bien entendu, parce que, enfin, en tous les cas, ça changerait un petit peu la donne. Et ça réglerait beaucoup de problèmes, en particulier, il me semble, le débat un peu tordu sur la limitation des hauts revenus. Bon. D'un point de vue de philosophie politique, moi, je suis assez d'accord avec l'idée que, et c'est insupportable, d'avoir, dans une société... qui se dit civilisé, des écarts de revenus qui peuvent aller de 1 à 50, de 1 à 200, de 1 à 250, de 1 à 500. Bon. Je trouve que c'est même pas une question d'économie, c'est une question de philosophie politique. Qu'est-ce qu'on fout ensemble ? Qu'est-ce qu'on fout ensemble s'il y a des écarts de revenus qui peuvent être aussi abyssaux ? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui fait société. Mais vraiment plus rien. D'ailleurs, on se demande comment ces contemporains-là peuvent se croiser en pensant qu'ils appartiennent au même monde et qu'ils ont construit le même espace politique. Bon. Donc si on veut continuer l'effondrement démocratique, il faut continuer avec des choses comme ça. En plus, il n'y a absolument rien de justifiable. Enfin, vous pourrez lire toute la théorie économique que vous voudrez, et à aucun moment dans la théorie économique, il est marqué qu'il est possible qu'un homme ait une productivité 500 fois supérieure à celle de son voisin. C'est impossible. Bon, alors si on est rémunéré un tout petit peu en fonction de ce qu'on fout, un écart de 1 à 500, qui va aller raconter ces histoires aux petits-enfants ? Bon. C'est parfaitement injustifiable. Et puis vous pouvez balayer toutes les autres raisons économiques. S'il n'y en a qu'une, elle avait été avancée par Adam Smith, il n'y en a qu'une qui justifie des très hauts revenus, c'est ceux qui ont la main près du pot de confiture. Ceux qui peuvent se servir dans la caisse. Ceux qui peuvent se servir dans la caisse, il faut les rémunérer très cher pour qu'ils ne soient pas tentés de se servir dans la caisse. Mais c'est quasiment la seule justification économique au très haut revenu. C'est-à-dire, comme c'est des brigands, et qu'il ne faut pas qu'ils flouent les gens à qui vont revenir ces revenus, il faut les payer très cher. En gros, c'est la dialectique entre l'actionnaire et le grand patron. Hein ? On paye les hauts dirigeants très cher pour qu'ils ne soient pas tentés de détourner une partie de l'argent des actionnaires. Mais bon, si on passe tout ça de côté, il n'y a absolument aucune justification à ces écarts de revenus. Et il y a une chose à laquelle il n'y a pas de justification, ça s'appelle de la violence, quoi. Si on n'est plus capable d'expliquer pourquoi les choses sont ainsi, on est simplement devant l'exercice d'une violence pure et simple qui ne dit pas son nom. Bon, mais donc, si on admet qu'il faut supprimer ces très hauts revenus, c'est pas en modérant les bonus des traders, c'est pas en plafonnant les revenus versés dans une société à tel ou tel. On n'a qu'à mettre des taux d'imposition d'enfer au-dessus des niveaux de revenus qu'on ne veut plus voir créés dans la société et ne se créeront plus. Si on a un taux marginal d'imposition de 90% sur les revenus, qui ira payer 23 millions de stock options à bazar ou à truc à machin ? Ça ne sert plus à rien. Le fisc en récupérait 90%. Bon. Donc la manière simple, logique, juste, lisible et claire de régler ces questions-là, taxation des profits, taxation ou plafonnement des hauts revenus, c'est de rétablir une progressivité correcte de l'impôt sur le revenu.
Moi je vote pour Laurent, prochaines élections, et toi Jean ?
Bah, je te dirai après
pour
quel parti tu dois voter.
Thank you.
Journal de Tumulte avec Laurent Cordonnier comme invité. Alors on va parler du classement de Shanghai qu'on ne connaissait pas. Guy, tu connaissais toi ?
Bien sûr, Jean.
Bien sûr. Ça fait longtemps que vous n'allez plus à l'école.
Et toi, tu travailles dans quel champ professionnel, Jean ?
Éducation nationale, mais pas dans le supérieur.
Ah oui, mais tu prépares tes élèves au supérieur et tu ne connais pas le classement de Shanghai.
Classement de Shanghai, c'est le classement des 500 universités. Dans le monde entier. Classement de 500 universités dans le monde entier. Et on obtient le top 100.
D'abord, on obtient quand même le top 500. Et puis après, vous faites les tops que vous voulez. On obtient le top 100 et si vous voulez, le top 10. Alors, tu as raison, Jean, il y a encore 4 ou 5 ans, on ne connaissait pas bien le classement de Shanghai. Et même quand on était universitaire, on arrivait à très bien vivre sans le classement de Shanghai. Et même peut-être qu'on s'en portait beaucoup mieux.
Parce que les universités françaises, elles n'y apparaissaient pas. Non, c'est pour ça, peut-être. Non.
Ah non, ça, c'est pas tout à fait juste.
Elles y apparaissaient mal, en tout cas.
On va voir.
Mal classées.
On va voir.
Non, ça a évolué, ça a changé.
C'est toute la question.
Ça a changé. Justement, on en parle plus parce qu'il y a une petite amélioration de la...
Enfin, c'est quand même pas des remontées de 50 places dans le classement, hein, Guy.
Vas-y.
Je voudrais pas t'enlever.
Tu m'enlèves rien du tout.
Toutes tes illusions. Mais justement, ce qu'il faut faire, c'est pas commenter le classement en tant que tel, c'est essayer de le critiquer un petit peu. Mais il faut en dire deux mots quand même. C'est vrai qu'il y a 4 ou 5 ans, ce classement qui est fait par une université, justement, de Shanghai, qui s'est mis en tête d'établir le palmarès des meilleures universités du monde, a commencé par s'imposer, et comme toutes les passions du classement, finalement, elle remplace tous les discours sur l'université, sur l'enseignement supérieur et sur la recherche, et finit par devenir une espèce de juge de paix de la performance des institutions supérieures d'enseignement et de recherche. Alors, disons quand même quelques mots sur la livraison présente. Dans ce dernier classement de Shanghai, eh bien, il n'y a que 23 établissements d'enseignement supérieur français qui sont classés dans les 500 premiers. Bon, donc c'est ça qui fait dire à certains que nos performances ne sont pas extraordinaires. Vous vous doutez bien que dans les premières universités, il y a surtout des universités américaines et anglaises. Si on prend le top 100, par exemple, donc pas tout le lot des 500, mais dans les 100 premières. Dans les 100 premières, il y a exactement 55 universités américaines. Il y en a 11 au Royaume-Uni. Et puis le reste partage le reste, si j'ose dire. C'est-à-dire il y en a 5 au Japon, 5 en Allemagne, 4 au Canada, 3 en France, 3 en Australie, 3 en Suisse, 3 en Suède. Et puis les autres s'en partagent 8.
Et les 3 françaises ne sont pas les 3 premières.
Les 3 françaises ne sont pas dans les 3 premières places. Elles sont exactement à la 40, 43e place et 70e place. Mmh. Voilà. Bon. Mais vous voyez bien un peu l'effet de loupe. Et puis alors, si vous prenez le top 20, là, je ne sais plus, mais il doit y avoir 17 universités américaines, il doit y en avoir une ou deux anglaises. Et puis je ne sais plus quel est le larron qui vient se glisser. Mais plus vous allez en haut du classement, et plus il reste que des universités américaines. Alors, ceci dit, il y a tout de même 23 établissements d'enseignement supérieur dans le top 100, avec en particulier, bien classés, les universités plutôt spécialisées dans les mathématiques.
Voilà. Et ça, 23 c'était... dans le top 500.
Dans le top 500.
Dans le top 500, ouais.
Et pour les universités françaises, celles qui sont bien positionnées dans le classement sont des universités qui ont une forte composante en mathématiques.
Je vois que dans la liste, il y a l'université, il y a ton université, Laurent.
Il y a bien sûr l'université Lille-1 dans le classement de Shanghai. Et parmi
les... Enfin, elle est en queue de liste quand même. Hein.
Elle est dans le top 400. Elle est dans le top 400.
402.
Elle est entre 402 et 500.
Ouais, donc elle n'est pas dans le top 400 là.
Non, tu as raison, ouais. Elle est dans le dernier quartile. Elle est dans le dernier quartile. Ouais, ouais. Mais elle est là tout de même.
Elle est dans le top 500.
Voilà. Elle est là tout de même. Bon. Alors, on peut quand même se demander comment le classement est fait.
Oui, quand même.
Je pense que c'est la bonne question. Hein.
C'est ça que tu voulais savoir.
Ouais.
Ben, Guy est tout à fait au jeu ce soir. Il pose les bonnes questions une fois qu'elles ont été énoncées. Alors, je vais vous dire comment le classement est fait. Il est fait à partir de 6 critères. 6 critères. Qui est une espèce de scoring des universités. Alors, quels sont ces critères? Ben, d'abord, pour 10%, donc 10% de la note ou de votre cotation, on se demande quels ont été les prix Nobel qui sont passés par votre université.
Pas les futurs. Hein.
Ou qui ont été,
on les connaît pas encore.
Ou qui ont été diplômés de votre université. Ou qui étaient en poste à l'université lorsqu'ils ont été nobelisés dans votre université. Ça, c'est 10%. Pour 20% suivant, on se demande quels sont les prix Nobel qui sont encore dans votre université et qui font partie du personnel administratif entre 2004, enfin administratif, d'enseignement et d'encadrement de votre université entre 2004 et 2008. Donc ça fait...
Prix Nobel ou assimilé. Parce
ou Medal Field.
D'accord, parce qu'il y a certaines disciplines où il n'y a pas de Nobel.
Oui, justement, ça fait partie du problème. C'est-à-dire que pour beaucoup de sciences humaines, c'est tout. Là, vous marquez aucun point.
Hein, les mathématiques aussi, genre.
Sur ce truc-là. Oui. Medal Fields. Pour les mathématiques, c'est considéré quand même équivalent du prix Nobel. Bon. Mais 30% de la note, c'est savoir si vous avez des prix Nobel. Bon. C'est facile d'avoir zéro, là, hein, sur ces critères. Bon, ensuite, c'est les qualités de l'université. Alors, comment apprécie-t-on les qualités propres de l'université? Eh bien, on essaie de comptabiliser les chercheurs qui sont dans votre université et qui font partie des chercheurs qui sont hautement cités par les autres, c'est-à-dire dont les publications sont hautement citées par les autres chercheurs. Alors, je n'ai pas été approfondir le « highly cited », hein, comme critère, mais hautement cité dans une vingtaine de champs de sujets de recherche qui ont été repérés.
Mais tu n'as pas le droit de citer cancer, quelqu'un de ton université.
Ouais, alors là, je pense que je pense qu'il n'y a pas cette règle. Hein. J'irai gratter, mais ça m'étonnerait qu'ils commencent à éliminer des bibliographies les gens qui appartiennent à la même université. Ça, c'est 20%. Et puis ensuite, 20 autres pourcents, tenez-vous bien, c'est on comptabilise les papiers publiés dans la revue Nature et la revue Science. Donc il y a deux revues dans le monde qui font autorité et qui sont des juges de paix pour la qualité de la performance de la recherche, en gros, 20%. Et puis alors quand même, on a introduit 20% pour les papiers, les articles publiés dans les ce qu'on appelle les index, qui référencent l'ensemble des revues qui sont censées être d'un bon rang de publication académique, donc à la fois le Science Citation Index Expanded et le Social Science Citation Index, qui est le juge de paix pour ceux qui font des sciences économiques et sociales. Ça, c'est 20%, donc publication dans ces revues. Et puis on met un petit 10% pour la performance académique. Donc on reprend tout ça, performance académique, et on le divise par tête de pipe pour voir si c'est pas dû à un effet démographique de l'université, parce qu'elle aurait beaucoup de chercheurs. Donc on fait un ratio et on corrige par ce ratio, mais qui ne pèse que 10%. Alors quand vous regardez ces critères...
Ça fait bien 100% là.
Là vous avez 100%.
Et comment l'université de Lille a réussi à marquer un point?
Ben, par exemple, on a quand même quelques publications dans Nature et Science. Hein. Alors, par exemple, on en a 10 fois moins que le premier du classement.
Hein. Ce qui est pas
10 fois moins que Harvard.
C'est même honorable.
C'est honorable. Ouais. On a 0 prix Nobel, donc on a déjà 30% où c'est 0, hein, ça c'est clair. Mais sinon, effectivement, sur les papiers publiés dans Science et Nature, on en a 1/10. Sur les papiers publiés dans les autres, Science Citation Index et Social Science Citation Index, on en a 1/4. On en a 5 fois moins que Harvard. Ce qui n'est pas nul non plus pour une petite université provinciale dont on pourra dire donner quelques éléments en plus. Ce qui frappe quand même dans ce genre de truc, c'est que l'enseignement n'apparaît pas. L'université n'est absolument pas un lieu d'enseignement. Donc on ne cherche absolument pas à évaluer les performances de quand même ce qui est le premier produit de sortie des universités, qui n'est pas forcément la recherche académique, mais qui est-ce que les formations sont bonnes ou mauvaises. Ou alors on fait l'hypothèse ou le raccourci exorbitant, s'il y a des bons chercheurs, c'est que ce sont de bonnes universités pour l'enseignement. Bon. Et donc vous n'avez aucun critère du style, allez, soyons même pragmatiques, hein, et venons même carrément dans l'esprit LRU, Nouvelle Régulation des Universités, vous n'avez aucun critère du type durée de chômage des étudiants à la sortie de leurs études, niveau du salaire à la sortie de leurs études, vous n'avez encore moins des indicateurs sur le taux d'étudiants qui se situent dans des familles relativement modestes, boursières, etc. Donc les critères sociaux ne sont absolument pas pris en compte, ce qui pour un pays comme la France, évidemment, nous remettrait carrément dans le haut du classement, hein, puisque nous sommes quand même l'un des pays qui a eu la massification la plus importante de l'enseignement supérieur, puisqu'on accueille maintenant pratiquement 2 millions d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Donc aucun critère sur l'enseignement, aucun critère sur les performances d'intégration sur le marché du travail, et puis l'élimination quasi systématique de tout ce qui peut être la production en sciences humaines au sens strict. Parce que toute la production en sciences humaines au sens strict, elle a du mal à passer le cap de ces revues académiques. Aujourd'hui, quelqu'un comme Bourdieu, c'est pas sûr qu'il serait dans ces classements de height sitting de auteur, parce que finalement, il a surtout publié des livres. Bon. Quant à Lévi-Strauss, paix à son âme, lui-même ne figurerait sans doute pas à l'intérieur de ces classements, parce que ses publications n'ont pas le format académique d'aujourd'hui. Ça, c'est peut-être une première critique.
Eh ben,
vous en voulez d'autres ?
Non, on attend que tu nous proposes, peut-être pas aujourd'hui.
Mais il nous reste 3 minutes.
Ouais. Je vais quand même en dire.
À notre type de classement, quoi. Tu nous as proposé.
Les chercheurs des instituts comme l'INSERM et le CNRS ne sont pas comptés en France. Simplement parce qu'on ne les considère pas comme des universitaires. Or, ils fonctionnent dans les universités. Il faut bien les mettre quelque part, ces gens-là. Donc, toutes les publications du CNRS et de l'INSERM n'apparaissent pas dans ces classements. Et puis, il n'y a pas non plus de correction de ces indices par rapport au budget alloué par étudiant. Quand on sait qu'un budget alloué par étudiant de Lille, c'est 10 fois moins qu'un budget alloué à un étudiant d'Harvard, on pourrait multiplier notre performance par 10, et puis on passerait largement au-dessus d'Harvard dans le classement. Oublions bien vite le classement de Shanghai.
Si je fais une petite synthèse rapide de l'émission, c'est à bas les classements, et vive l'impôt sur les profits, genre, c'est ça, non?
T'as bien raccourci. Hein. Un mot sur la poste, Guy, tu voulais dire un mot, puis juste avant de se quitter, là.
Ah non, moi, un mot sur la poste, oui, on en a entendu parler, et je pense qu'on va encore en entendre parler, il y a une actualité parlementaire par rapport à ça, il y a un mouvement qui se continue, qui se poursuit, hein. Bon, vous savez qu'il y a eu une consultation citoyenne, j'ai plus le terme exact. Comment ? Une votation citoyenne qui a recueilli plus de 2 millions de participants. Et la majorité des participants sont bien sûr exprimés contre une privatisation enfin contre la, le phénomène qui va vers la privatisation de la Poste, mais bien sûr pas d'écho au niveau du gouvernement. Donc là il y a une deuxième démarche qui est entreprise, c'est demander cette fois un vrai référendum. Donc il y a des petites cartes à remplir pour demander un vrai référendum qui sera transmise à qui de droit. Et donc je pense que vous les trouverez, il y a des points de signature un peu partout en France tout au long du mois de novembre. Donc vous devriez pouvoir trouver ça pour vous exprimer si vous avez envie de vous exprimer là-dessus.
Voilà, il y aura, on peut lire, je crois qu'il y aura une manifestation régionale.
Le samedi 21 novembre.
Voilà. Voilà, c'était le journal de Tumulte. C'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 15h et à 1h30 et sur le net radiopfm.com. À la semaine prochaine, salut.